Europe 1, il est 8h01.
C'est un peu MacGyver, des fois, on a des infirmières qui nous disent « Bon, bah, j'avais besoin de tel matériel, on n'en a pas. » Du coup, j'ai bricolé un truc avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a et comme on peut.
Pénurie d'effectifs et de moyens à l'hôpital public, grève et manifestation aujourd'hui. Une importante mobilisation est attendue pour obtenir plus de budget, de personnel et de sécurité.
Emmanuel Macron qui tente d'apaiser ses relations avec les élus locaux à quelques jours du congrès des maires. Le président va participer à un conseil municipal aujourd'hui dans la Marne.
L'INSEE a dévoilé ce matin le taux de chômage au troisième trimestre 2019. Après plusieurs trimestres de baisse, le chômage repart légèrement à la hausse. Plus 0,1 point, soit 8,6% de la population active. Et 10 000 chômeurs de plus. Première réaction en exclusivité sur Europe 1 de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, notre invitée à 8h15.
Opération réconciliation entre avocats et magistrats à Paris. Mépris, parfois même insultes. Le récent déménagement du palais de justice au Batignolles n'a pas arrangé les relations, au contraire.
Je croise un magistrat avec qui j'ai dû avoir une bonne quinzaine d'audiences. Je lui dis bonjour, monsieur le procureur. Je sais qu'il me voit, je sais qu'il m'entend, mais il ne me répond pas.
La montée des eaux s'est calmée à Venise, mais les habitants et les touristes constatent les dégâts après l'impressionnant phénomène de marée haute avant-hier. Les hôteliers vénitiens craignent pour l'attractivité de la ville.
On a eu beaucoup d'annulations pour aujourd'hui, pour demain, et je comprends, les gens ne se sentent pas en sécurité ici face à la lagune.
8h02, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
C'est une colère profonde qui s'exprime, celle des personnels des hôpitaux publics en grève. Ils vont manifester aujourd'hui à Paris et dans plusieurs autres villes. Chefs de service, brancardiers, mais aussi les urgentistes déjà en grève depuis plusieurs mois. Tous réclament un plan d'urgence.
Et en particulier une augmentation significative du budget de l'hôpital. Discuté en ce moment au Parlement, faute de moyens, les établissements publics ont de plus en plus de mal à assurer leur mission. C'est ce que dénonce le personnel de la Pitié-Salpêtrière. À Paris.
Et c'est l'un des centres névralgiques de la contestation. Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place. Comment s'annonce cette journée de mobilisation ?
Eh bien, écoutez, ça s'annonce effectivement très mobilisateur puisque c'est ici que le collectif Interhôpitaux fera son assemblée générale ce soir à l'issue de la manifestation de cet après-midi pour décider de la suite à donner au mouvement. En attendant, les personnels et les médecins que j'ai pu rencontrer ce matin dans l'hôpital s'activent, dont les ascenseurs des affiches appellent à la grève. Écoutez Sophie Demeret, médecin responsable de la réanimation neurologique. Pour elle, c'est l'alerte rouge.
Dans mon unité, sur 40 personnels paramédicaux, il manque 14 personnels. Donc des situations de fatigue, de stress, non seulement une fermeture de lit parce qu'on n'a plus assez de personnel, mais le personnel qui reste travaille en sous-effectif dans des situations tout à fait inconfortables. Des gens qui craquent, bien sûr, des burn-out, on en a tous, toujours autour de nous.
Fatigue, stress, rémunération jugée trop faible, bricolage pour garantir les soins. Mathilde, infirmière depuis 3 mois, doit composer quotidiennement avec les maux de l'hôpital français, à commencer par le manque de matériel.
C'est un peu MacGyver, des fois, on a des infirmières qui nous disent « Bon, bah, j'avais besoin de tel matériel, on n'en a pas. » Du coup, j'ai bricolé un truc avec deux autres choses qui n'ont rien à voir et du coup, bah, on va prendre une sonde d'aspiration, la recouvrir et puis on va rincer avec. Et puis ça marche, quoi. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a et comme on peut.
Voilà qui résume bien l'état d'esprit général ici pour cette journée où plusieurs dizaines de mobilisations sont prévues dans toute la France. À Paris, le cortège démarrera à 14h devant la maternité de Port-Royal pour réclamer à l'État plus de financement pour sauver l'hôpital public français.
Merci, merci Jean-Jacques Herry en direct ce matin de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour Europe 1.
Ce fut une relation très compliquée au départ. Petit à petit, les choses s'arrangent, même si entre Emmanuel Macron et les maires de France, le temps n'est toujours pas au beau fixe. C'est la raison pour laquelle l'opération rabibochage se poursuit avec une visite présidentielle dans la Marne. Une visite d'abord en hommage aux anciens combattants au mémorial des batailles de la Marne.
Avant une séance dans l'après-midi au conseil municipal d'Épernay, où Emmanuel Macron pourra échanger avec des élus locaux. Qu'attendent-ils ? Pierre Herbulot est allé leur poser la question.
Exit la convention de mécénat pour le musée du vin de Champagne. Le conseil municipal du jour sera entièrement consacré à Emmanuel Macron. 1h15 de questions-réponses pendant lesquelles Franck Leroy, le maire d'Hiverdroit d'Épernay, va demander plus d'initiatives comme le grand débat avec les Gilets jaunes, plus d'implication des élus locaux dans la politique nationale.
À nous maintenant, sur cette confiance retrouvée, de construire quelque chose de durable pour que le pays s'administre mieux, en lien étroit avec les collectivités locales et pas au détriment des collectivités locales, comme ça s'est fait trop souvent depuis les années 80.
Jean-Paul Anger, élu de l'opposition de gauche, va réclamer lui plus de reconnaissance au président. Ici, les conseillers municipaux ne touchent que 100 euros par mois.
C'est regrettable que l'on n'ait pas forcément plus de considération, dans le sens où le conseiller municipal est plus connu ici, sur le territoire d'Épernay par exemple, que le député.
Autre couleur politique, autre attente face au chef de l'État. Sébastien Durançois, élu d'extrême droite, veut un signal fort sur la sécurité.
Il n'y a plus de respect en France, de toute façon, il n'y a plus de peur du gendarme. Et ça, il va falloir quand même qu'un jour, un dirigeant, le président actuel ou un autre, dise stop, c'est fini quoi.
Malgré leurs divergences, les élus municipaux saluent unanimement la venue d'Emmanuel Macron. Le dernier président à avoir fait le déplacement avant lui, c'était Charles de Gaulle. Épernay, Pierre Herbulot, Europe 1.
Pas sûr que les Franciliens l'aient effectivement constaté, mais les chiffres sont têtus. Le nombre de voitures en Île-de-France a considérablement baissé ces dernières années. Une étude révèle une diminution de presque 5% entre 2010 et 2018.
Bonjour Grégoire Delastérie.
Bonjour.
Vous êtes délégué spécial aux nouvelles mobilités à la région Île-de-France, maire de Palaiseau. Comment est-ce qu'on explique un tel recul de l'utilisation de la voiture en Île-de-France ? Les Franciliens ne sont pas tombés amoureux du RER du jour au lendemain ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la voiture reste encore très utilisée parce que c'est quasiment 15 millions d'utilisations chaque jour sur les 43 millions de déplacements. Donc ça a baissé de 5%, mais ça reste un mode de transport très très fort. Il y a plusieurs raisons. Les seniors utilisent un petit peu moins leur voiture. Les actifs qui sont des nouvelles populations, notamment qui sont installées en Île-de-France, s'installent souvent à proximité des transports en commun. La région Île-de-France a massivement investi dans les transports en commun. Entre 2016 et 2021, c'est 700 trains qui vont être neufs ou entièrement rénovés. C'est beaucoup plus de bus, notamment en grande couronne. C'est des refontes d'offres très fortes, je pense au RER A notamment. Mais il y a encore beaucoup de travail. Le vrai sujet, c'est notamment d'encourager la fin de l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans sa voiture. Donc promouvoir le covoiturage. Aujourd'hui, quand vous êtes francilien et que vous avez un pass Navigo qui concerne quand même beaucoup de franciliens, vous avez deux trajets de covoiturage offerts chaque jour, par exemple. Encouragez le vélo. On essaye, l'objectif est de tripler l'utilisation du vélo d'ici 3 ans. Pour l'instant, le vélo augmente de 30% dans cette étude, ce qui est un bon chiffre, mais on peut aller encore plus loin. Et c'est de travailler à toujours proposer d'autres solutions, quand cela est possible, à la voiture. Je suis maire de Grande Couronne, je suis maire de Palaiseau, je sais bien que la voiture restera, notamment pour des déplacements Grande Couronne à Grande Couronne, un moyen privilégié par beaucoup de Franciliens.
Et on voulait absolument en parler, d'abord parce qu'il y a cette information et que c'est inédit, aussi parce qu'on sait bien que c'est un enjeu politique majeur pour les élections locales à venir. Merci mille fois à Grégoire Delastérie, délégué spécial aux nouvelles mobilités de la région Île-de-France et maire de Palaiseau, en direct dans le journal de 8h ce matin.
Rien ne va plus entre avocats et magistrats. Les relations entre ces professionnels de justice se sont particulièrement dégradées ces derniers mois. Mépris, insultes. Un avocat est même poursuivi pour des injures prononcées lors d'une perquisition chez un confrère à laquelle il assistait.
Alors pour faire retomber la pression, des assises se tiennent aujourd'hui sur les relations entre avocats et magistrats. Relations particulièrement tendues à Paris. Le récent déménagement du palais de justice dans le quartier des Batignolles n'a pas arrangé les choses. Salomé Legrand.
Le froid ne date pas du déménagement, mais le nouveau palais aux Batignolles, avec ses multiples sas, interphones sécurisés et ascenseurs badgés, a creusé le fossé. Les avocats n'ont même plus accès à la cantine et s'y sentent mis de côté. Impossible de passer une tête dans le cabinet d'un juge pour un échange informel ou déminer un interrogatoire, déplore Maître Margot du Rond-Point-Clos.
Il faut prendre rendez-vous, passer par le greffe, faire des choses qui sont formalisées. Parfois, même les mails qu'on leur envoie cotés dans les dossiers, donc on devient beaucoup plus frileux pour les contacter. On est un petit peu désespéré de ça, puisqu'on sait qu'in fine, ce sont nos clients qui en pâtiront, puisqu'on ne peut plus dénouer les petites difficultés du quotidien de la justice.
Nos bureaux ne sont pas des moulins, expliquent les magistrats qui manquent régulièrement de temps à consacrer à leurs dossiers. Quelques-uns sont même dans la défiance assumée, raconte Safia Akori, avocate.
Je croise un magistrat avec qui j'ai dû avoir une bonne quinzaine d'audiences. Je lui dis bonjour monsieur le procureur. Je sais qu'il me voit, je sais qu'il m'entend, mais il ne me répond pas. Récemment, un email que je pensais être courtois, réponse cinglante du magistrat sans aucune formule de politesse. Merci de ne plus jamais adresser un email à cette adresse mail. Je ne les lirai plus et les jetterai sans lecture.
Des médiateurs pourraient être nommés de chaque côté en attendant que la confiance revienne.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. Direction le Proche-Orient dans un instant, Israël, Gaza, les raisons d'une nouvelle pluie de missiles. On va en parler tout de suite, la suite du journal de 8h dans un instant. Europe 1.
Europe 1, il est 8h13. La suite du journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Et au Proche-Orient, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce jeudi matin dans la bande de Gaza. Accord très fragile après une escalade des violences. D'un côté, des tirs de roquettes vers Israël et de l'autre, des raids de l'armée israélienne.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Qui a œuvré pour ce cessez-le-feu ?
La désescalade a été négociée par les Égyptiens, comme toujours. Le Hamas, qui voulait à tout prix rester à l'écart de ce duel, a fait un maximum de pression sur son allié militaire, le djihad islamique. Et de leur côté, les jusqu'au boutistes palestiniens devaient estimer qu'avec 350 roquettes tirées sur Israël, l'honneur est sauf, le but atteint, même si cette mitraille n'a tué personne. Le bilan est donc de 32 morts à zéro. Les derniers sont les plus saisissants, 6 membres d'une même famille tués dans leur maison de Dar el-Bana, dans le sud, dans leur sommeil, juste avant le cessez-le-feu, 2 femmes, 3 enfants, et le chef de famille Abou Malous. On ne sait rien de lui, sinon que les Israéliens visaient un membre du djihad islamique et qu'en général ils mettent coup au but. La guerre des Palestiniens, c'est la seule au monde où l'on connaisse jusqu'au nom et à l'adresse des victimes.
Et cette flambée de violence a commencé avant-hier avec l'élimination d'un commandant justement du djihad islamique.
Bahaa Anou Alata, liquidé dans son sommeil à domicile et sa femme à côté de lui, il faut croire qu'il n'avait pas d'enfant. Ce petit chef de l'organisation terroriste était dans le collimateur des Israéliens depuis qu'il avait fait tirer des roquettes sur Israël qui avait forcé Benjamin Netanyahou à se mettre à l'abri pendant un meeting. Son sort était scellé depuis la mi-octobre, l'ordre de tirer donné début novembre. Ce qui est fascinant, dans l'empoignade sans fin entre Israéliens et Palestiniens, c'est qu'on finit par presque tout savoir. Sur le plan politique, ces 2 jours de violence ne changeront rien. Le Hamas va continuer de négocier indirectement avec Israël, ce qu'il fait depuis 1 an pour alléger le blocus. Et Benjamin Netanyahou va persister à se présenter comme un rempart. Mais il peine désormais à convaincre. Ça fait 2 mois qu'il tente de former un gouvernement d'union en vain.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.
En Italie, le gouvernement devrait décréter aujourd'hui l'état d'urgence pour catastrophe naturelle à Venise. Il y a urgence à mobiliser des fonds pour éviter un jour la disparition pure et simple d'une des plus belles villes du monde.
Venise, c'est fini, engloutie sous les eaux. Heureusement, ce n'est qu'un scénario, mais un scénario catastrophe qui pourrait intervenir dans les prochaines années. Le phénomène de l'acqua alta, cette marée haute qui a lieu en ce moment, ne cesse d'inquiéter les Italiens, même si cette nuit a été un peu plus calme, Pauline Jacquot.
Oui, les flaques d'eau ont presque disparu des rues. Ce matin, les Vénitiens se réveillent au sec, mais pas de la manière la plus douce qu'il soit. Il y a un peu plus d'1 heure, c'est une alarme qui a retenti dans toute la ville. Vous entendez 3 notes. 3 notes pour prévenir que 3 heures après, l'eau va monter de 130 cm. Giacomo a déjà préparé la pompe à eau devant la façade de son hôtel.
J'espère que le vent ne va pas aggraver la situation. C'est un vrai problème pour nous, cette eau qui déborde et ça arrive de plus en plus souvent. On a eu beaucoup d'annulations pour aujourd'hui, pour demain, et je comprends, les gens ne se sentent pas en sécurité ici face à la lagune.
À côté, 2 hôtels sont complètement vides, les vitrines ont été brisées par la force des eaux, les écoles, la plupart des musées restent fermés. Même chose pour le grand théâtre de la Fenice, alors pourquoi rester dans ces conditions ? Certains touristes comme Angelica et Mohamed se posent la question.
Si c'est pour rester et la moitié des choses qu'on avait envie de voir sont fermées ou impossibles à voir, autant partir maintenant à Vérone, mais...
Comme c'est calme là maintenant, est-ce qu'on partirait pas tout de suite et après, voilà.
Il faut voir si l'hôtel là-bas veut bien nous accueillir une nuit plus tôt. Autant avoir les pieds un peu mouillés et puis on s'en sortira.
Reste à savoir si les transports en commun vont pouvoir circuler aujourd'hui, les bateaux. Le nouveau pic est prévu autour de 10h et je peux vous dire que tout le monde ici a déjà ses bottes.
Pauline Jacquot, envoyée spéciale d'Europe 1 à Venise.
8h17, votre invité politique, Sonia.
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sa première réaction aux chiffres du chômage dévoilés il y a quelques instants sur l'INSEE. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.